France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Nous consacrons donc cette semaine des carnets spéciales initiatives ou spéciaux initiatives nées dans le département de Haute-Marne. Commençons par un projet de reprise en main d'une ferme installée dans un des forts conçus à la fin du 19e siècle pour protéger la ville de Langres. À l'origine du projet, quatre trentenaires qui sont une nouvelle fois l'illustration de la contribution d'une jeune génération aux économies locales. Et puis nous serons également dans le département voisin ensuite de l'Aube pour annoncer un énorme chantier à prévoir sur le site de Clairvaux qui comprend une abbaye et le centre pénitentiaire qui va fermer ses portes. Cette année, notre guide sera Jean-Claude Smara, membre de l'association Au fil de l'Aube.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Valentin Pommier, bonjour.
Bonjour.
On va se retrouver en pays langrois, en Haute-Marne, un petit peu à l'est de Langres chez vous, à Mont-Landon, au fort fermier de Mont-Landon. Un fort, pourquoi il y a une histoire de fortification sur cette ferme?
C'est ça, en fait, ça fait partie des fortifications qui sont tout autour de Langres. Donc il y a 8 forts autour de Langres. Et donc le fort de Mont-Landon, qui est le dernier construit en date, en 1885, il a été terminé pour défendre la ligne Est.
Ouais. Et donc en 92, la famille de Villiers achète ce fort pour développer des activités de ferme auberge, ferme pédagogique, production de fromage de chèvre, et d'où le nom de fort fermier. Et ils prennent leur retraite il y a peu. Et vous, avec votre compagne Maïlis et avec vos amis Lucie et Thibault, vous devenez propriétaire de ce fort.
C'est ça, ouais. L'objectif, c'était vraiment de continuer dans l'état d'esprit de ce qui avait été lancé sur ce fort. Et enfin, voilà, on a mis 2 jours à visiter et à discuter avec les anciens propriétaires. On était très rapidement tombés sous le charme de ce qui se passait ici, de l'atmosphère du fort.
Mais ça veut dire que vous avez quand même racheté le domaine.
Ouais, on a racheté à 4, donc en passant par une société agricole, on a racheté le fort et ses 8 hectares.
Et vous dites que vous n'avez eu droit à aucune subvention jusqu'à présent?
Pour l'acquisition, non. Après, là, on a eu des premières subventions pour tout le mobilier de la ferme auberge, etc., par des fonds européens, des fonds leaders. De plus en plus, les politiques poussent sur ce type de projet, heureusement. Donc, sur la partie environnementale, sur la partie agriculture locale, sur la partie valorisation du patrimoine, on a quand même, si on se donne les moyens d'aller les chercher, on peut trouver des subventions quand même.
Vous conservez l'esprit de ferme auberge?
Ouais, donc ça sera une des activités principales. La première, c'est le maraîchage bio et en sol vivant, donc c'est-à-dire qu'on donne pas à manger à la plante, on donne à manger au sol qui lui donne ensuite à manger à la plante. Donc c'est une technique particulière pour avoir des fruits et des légumes les plus nutritifs et les plus gustatifs possibles. Et donc ces légumes, on les vendra à partir de quelques semaines sur le fort en fin de semaine et pour le territoire. Et donc une partie aussi de ces légumes iront directement à la ferme auberge. Donc il y a quasiment aucun transport. Ça ira directement du champ jusqu'à la partie restaurant du fort. Donc on aura des repas conviviaux et fermiers. Donc ce sera pas du service à l'assiette. Ce sera des grandes tablées avec un plat au milieu et de la chaleur et de la convivialité.
On va parler d'agroforesterie avec vous, ouais, avec les arbres fruitiers ou les arbres non fruitiers. Ouais. Vous semblez très très convaincu de votre affaire. Vous n'avez pas peur d'une prise de risque trop grande?
Non, alors le risque, je pense qu'en France, justement, le risque de l'échec fait très très peur, alors qu'au final, un échec, c'est aussi un apprentissage pour aller plus loin et pour avancer.
C'est juste.
Mais au-delà de ça, non, je pense que justement, c'est un projet qui répond largement à des attentes sociétales sur la production locale, sur recréer du lien social grâce à la ferme auberge, grâce aux événements, etc. Donc je pense qu'on est quand même dans un axe qui correspond vraiment à ce que tout le monde veut aujourd'hui, ou en tout cas la majorité des gens.
Vous êtes à l'image d'une société qui est en pleine reconstruction, vous, trentenaire. Il y a beaucoup de personnes qui vous écoutent, qui se disent peut-être qu'on pourrait faire la même chose, parce qu'on va, selon le principe, donner du sens à notre vie et à notre travail. Mais quelles sont les conditions requises, quels sont les conseils que vous pouvez donner à des personnes qui nous écoutent, qui ont le même âge que vous et qui ont envie d'entreprendre un même type d'activité ?
Bah, qu'il faut pas hésiter à y aller déjà.
Oui.
Et ensuite, au-delà de ça, faut prendre quand même un minimum de temps pour réfléchir. J'ai du coup dans mon ancien travail, donc j'avais monté aussi une entreprise sur la région bordelaise. Donc j'avais été formé justement à la gestion d'entreprise, à plein de choses en lien avec ça. Donc forcément, il y a toute la question des compétences à avoir aussi pour monter ce genre de projet, qu'on peut avoir facilement avec des formations courtes ou plus ou moins courtes. Et ensuite, c'est aussi se faire accompagner. Il y a les collectivités, les services techniques des collectivités locales sont aussi là pour nous accompagner, pour nous guider. Quand on cherchait du foncier justement dans la région, on a tout de suite été voir les collectivités pour savoir qu'est-ce qui se passait concrètement sur ce territoire, comment on pouvait apporter quelque chose sur ce territoire. Donc c'est... Je pense que c'est important d'aller à la rencontre de ceux qui comprennent déjà comment fonctionne le territoire avant de se lancer.
Bon, en tout cas, on vous souhaite plein de réussite avec les aménagements sur les 3 ans au minimum à venir, avec les maraîchages sur sol vivant, les arbres dont on a parlé, et puis les activités et l'hébergement. L'adresse, c'est le Fort Fermier pour la page Facebook, et vous allez découvrir ce site, donc géré par Valentin, Maïlis, Thibault et Lucie, puisque je cite le Quatuor à l'origine de cette reprise en main. Bonne chance pour la suite, Valentin.
Merci beaucoup.
France Inter, carnet de campagne.
Comme beaucoup d'entre nous, ils sont conscients que bien des actions locales peuvent être inspirantes tant elles construisent ce que nous appelons communément un mieux vivre ensemble. Ils, ce sont Valentin, 23 ans, et Robin, 53 ans, père du premier. Ils ont décidé de prendre la route depuis le 1er mai. Ça va durer jusqu'au 31 août à bord de leur vieux camping-car Mercedes qui atteint péniblement les 80 km/h sur le plat. Et l'idée est d'aborder des agitateurs locaux qui se mettent au service du bien commun. Ces rencontres sont filmées et sont diffusées sur une chaîne YouTube, je vous conseille. L'objectif de 10 000 km à parcourir durant ces 4 mois va apporter de la matière à Robin et Valentin qui ont déjà mis en boîte une série d'interviews. Vous avez trouvé le lien avec la chaîne à nos pages d'émission. Ils ont créé également une cagnotte pour remettre de l'essence dans leur Batmobile, comme ils l'appellent. Jean-Claude Smara, bonjour.
Bonjour, Philippe.
Merci de prendre la parole au nom de l'association Fil de l'Aube, dont vous êtes adhérent, qui lance un appel à des projets alternatifs sur un site qui est extraordinaire, qui a une histoire très ancienne, d'un côté, avec une ancienne abbaye, celle de Saint-Bernard, à Clairvaux. Et puis, quand on dit Clairvaux, on pense aussi à une centrale pénitentiaire. Cette centrale va fermer ses portes. Que faire de ce patrimoine de bâtiments immense ?
C'est la grande question que se pose effectivement l'État, hein, puisque donc les différents ministères seront toujours partie prenante pour la partie culturelle, c'est vrai, mais la partie justice donc ferme ses portes. Donc voilà, ce potentiel, c'est 30 hectares dans une superbe vallée, drainée par une dérivation mise en place par les religieux au XIIe siècle, et 30 hectares entourés de 3 km de murs, hein, donc c'est vraiment une cité en soi. Et une trentaine de bâtiments qui attendent une destination, effectivement.
Cette fermeture est une perte pour Clairvaux ?
Bien entendu, hein, c'est une région qui risque de retomber un peu dans l'état désertique dans lequel elle avait trouvé Saint-Bernard. C'est une perte puisque d'autres industries ont malheureusement fermé. On est à la limite de la Haute-Marne. On est en bordure du parc national des forêts. Bon, il y a la sortie de l'autoroute A5. Il y a des atouts vraiment importants pour revitaliser ce site. Et dans un esprit que l'on espère, justement, un esprit faire une sorte de laboratoire, de nouvelles communautés, de villages élargis autour des valeurs sociales et solidaires.
Et comment réagissent les deux ministères concernés, à savoir de la justice et la culture, à l'appel que vous lancez ?
L'État attend des offres, donc ils attendent des offres d'investisseurs bien assis financièrement. Voilà, après, on est effectivement dans la proposition alternative, hein, on n'est pas dans l'hôtel, le restaurant de luxe. La population est plus modeste. Ici, elle souhaite participer si possible, donc notamment autour de la problématique de l'eau, de l'hydraulique, hein, puisqu'on a des anciens moulins qui ne demandent qu'à remoudre la farine ou à produire de l'électricité. Donc l'association s'est constituée autour de cette idée, mais ce n'est qu'un petit morceau de cet immense territoire. Donc les capacités de jardins partagés, de villages intergénérationnels, bref, c'est infini. Donc c'est un appel vraiment à toutes les forces vives, hein, qui le réseau Carnet de Campagne, qui cherche un lieu, hein, c'est un lieu magique, qui cherche donc à installer un projet, une activité.
Est-ce que face à vos projets et aux appels que vous lancez pour mettre en place des circuits touristiques à thème, par exemple de proximité, je signale au passage Jean-Claude que vous êtes auteur d'une cinquantaine d'ouvrages sur l'histoire, le patrimoine régional en Champagne et en Bourgogne que vous connaissez parfaitement bien. Ça peut être un conservatoire d'espèces végétales, ça peut être une vitrine du savoir-faire artisanal local, des résidences d'artistes, une école des métiers du bâtiment. La liste est longue, mais face à cette belle liste que vous avancez, est-ce qu'il y a déjà d'autres propositions, on va dire officielles, de poids face à vous ?
Là, ça reste un petit peu opaque. Hein. L'appel à projet est récent, donc il y a une réunion de prévu en septembre où les candidats devraient se dévoiler. Donc, pour l'instant, à l'exception de cette notion hôtel et restaurant de luxe et musée de la mémoire, aussi bien carcéral que monastique, on n'a pas aujourd'hui effectivement de projet global avec une certaine unité dans le fil de cette histoire, bien entendu, de ces moines qui ont donné du travail à des centaines de convers, qui partageaient le pain à la porte de l'abbaye, et effectivement aussi donc cette mémoire des prisonniers qui sont pour beaucoup morts de faim au cours du milieu du 19e, donc il y a quelque chose à faire.
Vous avez écrit sur ce patrimoine ?
Oui, avec Jean-François Leroux, donc sur un livre sur les abbayes dans le département de l'Aube. Effectivement, il y a une grande part réservée à cette abbaye, bien entendu.
Quel type de profil vous cherchez ?
C'est vraiment ce que j'entends tous les jours dans votre remarquable émission. Hein.
Merci.
C'est un investisseur, par exemple, pour créer non pas un EHPAD traditionnel, mais effectivement un centre d'hébergement, personnes âgées, avec peut-être des jeunes en difficulté pour encadrer, avec ses terres, ses potagers, etc. en commun. Enfin voilà, c'est dans cet esprit-là. Mais tous ceux qui veulent faire une visite et présenter une idée, il faut contacter donc l'association, voire la mairie aussi de Clairvaux-Ville-sous-la-Ferté, pour essayer de faire avancer les choses au niveau de l'état d'esprit des élus, des décideurs, de l'administration.
Il y a une adresse électronique afdlaube@gmail.com, on va la reproduire à nos pages d'émission. Et puis vous pouvez donc entrer en relation, comme le disait Jean-Claude, avec la mairie de Clairvaux-Ville-sous-la-Ferté et aussi l'association Au fil de l'Aube. Merci et tenez-nous au courant des avancées, Jean-Claude.
J'espère vous voir un jour sur le terrain faire un beau reportage.